matin avec Jésus. Je me lève en souriant, des soucis je n'en ai plus. Avec Jésus, je vais de l'avant. La vie c'est si merveilleux, je suis tous les jours heureux. La prospérité est là, la santé est avec moi. Son espoir est dans mon cœur, je connais le vrai bonheur. Lève-toi pour chanter avec moi. Chaque matin avec Jésus, je me lève en souriant. Des soucis, je n'en ai plus. Avec Jésus, je vais de l'avant. La vie, c'est si merveilleux. Je suis tous les jours heureux. La prospérité est là. La santé est avec moi. Son espoir est dans mon cœur. Je connais le vrai bonheur. Lève-toi pour chanter avec moi.
Bonjour à tous. Alors, je suis content encore d'être avec vous ce matin. En tout cas, je me réjouis dans le Seigneur d'avoir connu le pasteur Michel. La dernière fois, j'ai parlé de lui. En tout cas, je suis content, très content pour ce qu'on s'est rencontré, parce que à cause de l'œuvre qu'il fait en Afrique, ah oui, à cause de l'œuvre qu'il se fait en Afrique, et l'Afrique, je sais que pour même aller en Afrique, il y a plusieurs en Europe ici qui ne veulent même pas aller. Mais lui, quand même, il va, il mange avec nous, il dort avec nous. Si vous allez voir là où il dort, quelquefois ici, mais je me dis même un chien même ne va pas accepter de dormir dans certaines cases où il dort, parce que je sais comment les chiens vivent ici. Mais il va avec nous, vraiment je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un, comme disait quelqu'un, qui sait quitter alors la hauteur pour descendre en bas, et aussi quitter en bas aussi pour monter en haut. Alléluia. Vraiment, je suis content. C'est aussi grâce à vous qui soutenez ces ministères. C'est bien, je vous encourage vraiment de continuer de soutenir les ministères, parce que, alors, en tout cas, on est content au niveau de l'Afrique là-bas. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Ce matin, nous allons, la dernière fois, on a parlé de la foi. Aujourd'hui également, nous allons parler de la foi, mais l'exemple de la foi de Ruth, s'il y a un thème à donner, c'est ça. C'est l'exemple de la foi de Ruth. Et nous allons lire le livre de Ruth, évidemment. Ruth chapitre 1, versets 1 à 7. Ruth 1, 1 à 7. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kirjon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kirjon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? On va terminer par le chapitre 4, verset 13. 4:13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, donc, je disais ce matin que nous allons voir l'exemple donc, de la foi alors de Ruth. Je disais au pasteur Michel que j'aime prêcher sur la foi. C'est pas que j'aime, je suis poussé, même en Afrique, à prêcher sur la foi. Parce que j'estime que Jésus est venu sur la terre pour nous donner la foi, pour nous donner l'espoir. Amen. C'est ce que Jésus est venu nous donner. C'est vrai, il est venu mourir pour nous, il a pris nos péchés. Mais si ça se limitait là, alors, ce n'est pas, il y a quelque chose qui manque. Mais il est venu nous donner l'espoir. Parce que nous sommes dans ce monde, le monde est plein de difficultés. Et nous avons besoin de vaincre ces difficultés. Et un jour, nous devons monter, aller au ciel, vers le Seigneur. Donc, il est venu pour nous donner de l'espoir. Pour nous donner de l'espoir. Dans les difficultés, nous pouvons savoir que nous avons la victoire. Amen. Alors, ici, j'aimerais comparer un peu la foi de Ruth et puis la foi de ses beaux-parents. Et nous allons commencer d'abord par les beaux-parents. La Bible dit qu'au temps des juges, il y a eu une famine donc en Israël. Et à cause de la famine, il y a une famille qui a quitté le pays d'Israël pour aller donc à Moab. Et la famille, donc c'est la famille d'Élimélec. J'aimerais qu'on puisse voir la foi de Ruth comparée à la foi de ses beaux-parents. Bien sûr que la foi de ses beaux-parents n'avaient pas assez de foi, alors pour pouvoir traverser les difficultés. Et nous allons les démontrer. Du temps des Juifs, donc, il y avait une famine donc, dans les pays. Un homme nommé, un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Et cet homme nous s'appelait Élimélec. Je veux donner la signification de beaucoup de choses ici, parce que j'ai fouillé et puis je connais. Élimélec était en Israël avec sa femme alors, et ses enfants. Et Israël, quoi qu'on dise, Israël c'est le lieu de l'espoir, le lieu, je dirais, là où il y a l'espoir. Parce que c'est le peuple de Dieu. Et même, ils sont issus d'Abraham. Ils sont descendants donc d'Abraham. Ils sont donc le peuple de Dieu. Et ils étaient sur la terre, je dirais la terre de Dieu. Hein? Israël, qui est donc la terre promise, Canaan, conquis depuis longtemps, ils étaient donc dans un lieu qui est bon. Et quand nous regardons la signification des noms, d'abord ils étaient à Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain. Bethléem signifie la maison du pain. Ils habitaient à Bethléem. Et Bethléem de Juda. Juda signifie louange. C'était donc à Bethléem, qui est la maison du pain, à Juda, qui signifie louange. Et la Bible continue dans les mêmes passages en disant qu'ils étaient éphratiens. Dans le mot éphratien, nous avons Éphraïm. Éphraïm veut dire abondance. Alors, Élimélec même, le nom Élimélec signifie quoi? Mon Dieu est roi. Élimélec, ça signifie mon Dieu est roi. Et Naomi, ça c'est la grâce, la beauté, hein, celle qui est gracieuse, la belle. Et regardez les conditions dans lesquelles ils sont. Je veux que vous puissiez voir les conditions dans lesquelles ils ont évolué. Ils sont donc descendants d'Abraham. Ils ont évolué en Israël, le lieu où tout le monde veut aller. Alléluia. C'est vrai que c'est un désert aujourd'hui, mais tout le monde veut aller en Israël. Même moi, je prie Dieu de ne pas mourir avant d'aller en Israël. Je veux aller connaître Israël. Et ils sont des Juifs. La Bible dit que les Juifs ont beaucoup d'avantages. Je vais vous lire un passage, vous n'êtes pas... Vous pouvez noter dans Romains 9, verset 3. Je vais le lire. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Vous voyez comment Paul cite les avantages d'Israël ici. Hein? Il dit à qui appartient l'adoption. Dieu les a adoptés. Et la gloire. Ils sont dans la gloire. Et les alliances. Ils ont toutes les alliances de Dieu. Et la loi. Ils ont la parole la plus parfaite au monde. Hein? C'est pourquoi nous avons laissé pour tomber pour nous pour les suivre. Alors, et le culte. Et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est béni éternellement. Alors, Élimélec et Naomi sont de ces gens-là, qui ont toutes ces promesses-là, et qui sont dans une ville qui signifie donc maison du pain, Bethléem, à Juda qui signifie louange, et ils étaient éphratiens, Éphraïm donc, il veut dire donc abondance. Mais nous voyons que malgré toutes ces conditions dans lesquelles ils sont, quand il y a eu une famine, nous apprenons qu'ils ont fui le pays pour aller à Moab. Il y a eu la famine, ils étaient nombreux dans le pays, mais nous n'apprenons pas que les autres ont fui. C'est pour ça que les autres aient fui, je ne sais pas, mais la Bible ne parle pas de ça. La Bible parle de cette famille qui a fui donc Israël pour aller à Moab. Et nous allons le voir plus tard, les Moabites n'étaient pas approuvés par l'Éternel. Et Dieu même les avait maudits. Et nous allons voir même cela. Mais ils ont préféré quitter donc les peuples saints, les alliances, les promesses, tout, pour fuir donc, aller donc à Moab, à cause de la famine. Alors, cela démontre vraiment et quelque chose dans leur vie, ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et nous allons voir ce qui leur manque. Nous allons voir cela à travers donc la foi de Ruth. Alors Ruth, comme vous le savez, quand ils sont donc partis à Moab, les deux, le beau-père est mort, et Élimélec est décédé, et les enfants ont pris des femmes, Orpa et Ruth. Et Ruth donc est une Moabite. Alors, contrairement donc à sa belle famille, nous allons voir que Ruth a développé vraiment la foi. Ruth a développé une grande foi. Alors, Ruth d'abord, comme vous le savez, était dans une condition défavorable. D'abord, elle est païenne. Elle n'est pas juive. Et ça, c'est très important. Elle est païenne, elle n'est pas juive. C'est très important. C'est comme quelqu'un qui est sans papier en France ici. Tu peux rien faire. Ah ouais, tu peux rien faire du tout. Si tu es sans papier, tu peux rien faire. Donc, il vaut mieux pour toi-même de rentrer dans ton pays. Alors, Ruth est païenne. Elle n'est pas juive. Et qu'est-ce que la Bible a dit des Moabites? C'est pourquoi, comme je disais, qu'ils sont bénis, ils sont maudits. Voyons voir Deutéronome 23. Deutéronome 23, verset 3. Donc, on peut même commencer au verset 1. C'est vrai que le verset 1 fait un peu rire, mais c'est la parole de Dieu. Il dit, « Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupée n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras, et à perpétuité. Amen. Vous voyez, la Bible est claire, hein? L'Ammonite et le Moabite là, ils n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, pour deux raisons. D'abord, ils sont issus d'une union illicite. Vous savez comment les Ammonites sont venus, sont nés, et comment les Moabites sont nés. C'est les descendants de Lot. Lot, dont la femme avait été transformée en statue de sel, qui a fui avec ses deux filles aller dans des grottes, et les deux filles l'ont rendu ivre pour se coucher donc avec lui et avoir des enfants. La Bible est claire là-dessus, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 19, vous allez voir donc cette histoire. Alors, et Dieu a dit que toute personne qui est issue d'une union illicite, ça c'est une union illicite, quelqu'un qui couche avec ses propres filles et qui a des enfants, c'est horrible, quelle horreur. Alors, donc, et les Ammonites et les Moabites sont nés comme ça. Et Dieu dit que celui qui est issu d'une union illicite ne peut pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Et Ruth est descendant de ces gens-là. Ensuite, il est allé plus loin en disant que l'Ammonite, en les nommant, l'Ammonite et les Moabites, là, ils ne peuvent pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Jamais. Parce que voilà, ils ont soudoyé Balaam pour pouvoir vous détruire, etc. Donc, à perpétuité, ils ne peuvent pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Voyons la condition de Ruth. Elle était serrée de toutes parts. Non seulement elle est païenne, ensuite elle est issue, elle est donc descendant de quelqu'un qui est issu d'une union illicite. Et Dieu a dit nommément que des gens comme ça, là, ils ne peuvent pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. C'est écrit noir sur blanc. Et la loi de Dieu reste la loi de Dieu. Alors, comme disait Alain, si c'est nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rester dans les soucis. Voilà, je suis maudit. Je suis né d'une façon anormale. Comment je vais faire dans cette situation? C'est écrit, je ne peux rien changer. Mais nous allons voir, comme vous le savez, que Ruth n'a pas tenu compte de ces choses-là. Alléluia. Elle n'a pas tenu compte des circonstances extérieures. Elle n'a même pas tenu compte de ce qui est écrit. Ruth va montrer une foi ferme. Et Ruth est un exemple unique dans la Bible. Pourquoi je dis cela? Non seulement elle est femme, et elle est femme païenne. Et elle est la seule à avoir son nom qui porte, hein, à avoir un livre en son nom. Le livre de Ruth. C'est vrai. Et regardez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous avez Genèse, vous avez Exode, Lévitique, etc. Jusqu'à Apocalypse. Il y a le nom de deux femmes dans tous ces livres-là. C'est Esther Et puis Ruth, si vous connaissez une autre femme, vous pouvez me dire, dont le nom est intitulé sur un livre de la Bible. Non, c'est Esther et puis Ruth. Mais Esther, elle est juive. C'est vrai, elle aussi, elle a fait un combat qui est merveilleux, mais elle est juive. Mais Ruth n'est pas juive, elle est moabite. Donc, issue d'une union anormale. Elle, qui ne doit pas rentrer dans l'Assemblée éternelle. Non seulement elle est rentrée dans l'Assemblée éternelle, mais elle a pu avoir son nom même qui porte, un livre qui porte son nom. Au lieu de dire le livre de Ruth, on aurait pu dire le livre de Élimélec ou de Naomi, ou au moins de Machelon ou de Clijon. Mais on a laissé tous ces juifs-là. Et on dit que c'est le livre de Ruth. Et même quand vous allez dans les canons juifs là-bas, là, ils ont le livre de Ruth avec eux. Amen. Ça, c'est une percée. C'est vraiment une victoire. Voilà une personne devant qui toutes les portes étaient fermées. La loi de Dieu dit, tu ne peux pas rentrer dans l'Assemblée éternelle. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Ensuite, elle a perdu son mari. Ensuite, elle devait quitter son peuple. Elle devait quitter son père, quitter sa mère, etc. pour aller dans une autre nation. Nous voyons que dans tout cela, Ruth va avoir la victoire. C'est pour dire à quel point les gens sont différents. Les uns étaient dans une situation favorable, merveilleuse, en Israël, avec toutes les promesses, avec les alliances et tout, mais ils n'ont pas réussi. Devant la famine, ils ont fui aller ailleurs. Et là-bas encore, ils n'ont pas réussi. Élimélec est décédé. Ensuite, les deux enfants sont morts. Et Naomi était obligée de retourner. Elle arrive dans le pays, on dit, ah, Naomi est là, la belle, la gracieuse, voilà, la biche qui arrive. Elle dit, non, ne m'appelez pas comme ça. Je suis devenue, je suis plus belle, je suis plus comme ça. Et je suis pauvre. Quand j'ai parti là, j'étais riche. Et maintenant, je reviens pauvre. Alors, ils n'ont pas réussi. Mais nous voyons Ruth qui va vraiment changer son environnement, changer sa situation. Alors, donc, comme je le disais, le premier point qui a aidé Ruth à changer sa situation, c'est vraiment sa foi. Elle s'est convertie, elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Déjà, c'est une proclamation de foi, elle s'est convertie. C'est le premier point important. Et elle a tenu ferme, sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte de ce que la loi de Dieu a dit. Si nous voulons remporter la victoire dans la foi, il ne faut pas que nous tenions compte de l'environnement. Si nous tenons compte de l'environnement, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire. La Bible dit dans Romains 4 qu'Abraham n'a pas regardé son corps qui était déjà usé. Et Sarah, qui avait 90 ans, elle avait dépassé la ménopause au moins deux fois. Et Abraham croyait toujours qu'il allait avoir un enfant. Ça, il n'a pas tenu compte de l'environnement. Nous aussi, si nous voulons avoir la victoire, nous ne devons pas tenir compte de l'environnement. Si nous savons que nous sommes inspirés de Dieu, si nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu, on doit foncer, on doit percer, on doit croire. Et tout est possible à celui qui croit, dit Jésus. Alléluia. C'est le cas de Ruth. Ah oui, elle n'a pas regardé à rien. Tout était là pour la décourager. Ah oui. Mais elle n'a pas regardé à ça. Orpa est retournée et elle est restée seule. Elle sait qu'elle est en train de quitter son père, sa mère, ses terres et tout. Mais elle est assez ferme. Si alors nous sommes déterminés, si nous avons la foi que nous sommes déterminés, en tout cas, ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais si nous restons dans cette voie-là, nous allons avoir la victoire. Nous voyons, comme je l'ai dit, nous voyons que Ruth est partie. Elle est rentrée en Israël. Elle a pu donc avoir un mari. Elle s'est mariée, elle a eu un enfant, et de cet enfant-là est issu de Christ. Ah oui. Amen. Et Dieu est merveilleux. Dieu n'a pas voulu que tous les descendants de Ruth soient seulement uniquement des Juifs. Tous les descendants de Jésus soient seulement uniquement des Juifs. Il a mêlé aussi des païens pour montrer que Jésus, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une ethnie donnée. Alors, Ruth, vraiment, a tenu bon. Elle a été sincère, elle a persévéré, elle s'est convertie. Elle s'est décidée. Je lisais un document où il y a un pasteur qui préparait un message. Alors, c'était un samedi, il cherchait son message, il ne trouvait pas. Sa femme était sortie et puis il y avait un petit garçon, en fait, leur enfant qui était là, qui l'embêtait, et qui faisait du bruit de gauche à droite. Alors, le pasteur, donc, pour pouvoir occuper l'enfant, il a trouvé un journal et sur le journal, il y avait donc la carte du monde. Hein, sur une feuille, et il a pris la feuille, il a déchiré la feuille là, en petits morceaux, et l'a jeté par terre. Il dit à l'enfant là, il faut réunir la carte, il faut rassembler, il faut refaire la carte. Si tu arrives à refaire la carte, alors je vais te donner un billet d'$1. C'est les Américains. Alors, et il croyait qu'il s'est débarrassé de l'enfant, et que bon, d'ici là, il va pouvoir finir son serment, etc. Mais l'enfant a pris donc ces morceaux de papier. Et à son grand étonnement, 10-15 minutes, l'enfant est revenu. Avec tout, tout est bien fait. Ben, le pasteur était étonné. Il dit, mais comment tu as réussi à reconstituer la carte? Il dit, non, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y avait l'image d'un homme derrière la feuille. Donc moi, je me suis dit, un petit garçon de 10 ans, il dit, moi, je me suis dit que si j'arrive à reconstituer l'homme, à mettre l'homme là en règle, c'est que la carte du monde également sera en règle. Et c'est ce qui est arrivé. Il a tout fait pour remettre donc l'image de l'homme, parce que c'est plus facile de reconstituer l'image de l'homme que de reconstituer la carte. Donc, il a reconstitué l'image de l'homme et la carte était devenue normale. Ah, le pasteur dit, mais c'est là même le thème de mon message. Tu m'as donné le thème de mon message. Quand l'homme est en règle, le monde aussi est en règle. Mais quand l'homme n'est pas en règle, le monde ne peut pas être en règle. Nous voyons souvent des choses dans le monde. On est fâché. On dit qu'on veut changer le monde. Mais le changement du monde commence par notre propre changement. Si nous arrivons à nous-mêmes à nous mettre en règle avec Dieu, le monde va changer. Si chacun se mettait en règle avec Dieu, le monde aurait changé. Alors voilà donc la conclusion du pasteur qu'il a tirée de cette illustration. Effectivement, c'est ce que Ruth a fait. Elle a commencé à dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je vais mourir là-bas. Tout en sachant que c'est Israël. Alors donc, elle était décidée, elle s'est convertie, et c'est très important. Ensuite, la deuxième chose que je peux dire, Ruth savait ce qu'elle voulait. C'est ça. Je veux aller avec toi en Israël. Voilà ce que je veux. Là où tu vas aller, moi je vais là-bas. C'est tout. Je te suis. Je vais aller avec toi en Israël. Je vais demeurer avec toi. Je vais habiter avec toi. Elle savait ce qu'elle voulait. Vous savez que dans la vie, souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. Je lisais un livre qui disait que 98% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent en réalité. Si on nous demandait ce matin, vous qui venez à l'église ici, ou qui êtes donc... Les chrétiens, on leur demande, qu'est-ce que vous voulez même? Tu viens aller, qu'est-ce que tu veux? Quel résultat tu veux atteindre? Beaucoup de gens ne pourraient pas répondre à cette question. Quel résultat tu veux atteindre? Est-ce que c'est le pasteur que tu veux aider, comme je le disais, pour la mission en Afrique, et puis, donc, aboutir à un résultat? Ou bien, à l'église ici, qu'est-ce que tu veux atteindre dans la foi? Beaucoup de gens ne peuvent pas répondre. Mais souvent, les chrétiens sont les premiers à se plaindre, à dire beaucoup de choses, mais en réalité, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Il est important de savoir ce que l'on veut dans la foi. Parce que si tu marches, tu ne sais pas là où tu vas, ben, tu n'arriveras jamais là où tu pars, c'est sûr. Si tu viens aussi à l'église sans objectif, tu retourneras également sans objectif. Il faut que nous ayons des objectifs et nobles. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Voilà. Je vais avec toi, je m'attache à toi. Elle savait donc ce qu'elle voulait. Et elle a donné un nom à ce qu'elle voulait. C'est ton Dieu là. C'est lui que je veux. Ton Dieu sera mon Dieu. Je vais avec toi. Donc, il est important qu'on chasse ce qu'on veut si on veut réussir dans la foi. Naomi et son mari Elimelech étaient là en train de dandiner, on ne savait pas ce qu'ils voulaient. Il y a eu la famine, ils ont fui, aller en. De l'autre côté, là-bas il y avait la mort encore, ils sont encore revenus de l'autre côté. C'est des gens qui se promènent, qui n'ont pas de, qui ne tiennent pas, qui n'ont pas de tenace, qui n'ont pas de fermeté. Nous devons être fermes. On doit savoir ce qu'on veut. Ruth savait ce qu'elle voulait. C'est pourquoi, malgré toutes les difficultés, elle a pu tenir. Elle est restée ferme parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Quand Dieu a créé Adam et Ève, et Dieu l'a envoyé dans le jardin, il a fait passer les animaux pour que Adam puisse nommer tous les animaux. Le fait de nommer les animaux, etc., d'être dans le jardin, de nommer les fleurs, etc., Dieu lui a donné le pouvoir de dominer. C'est la domination. Quand tu donnes le nom à une chose, c'est une façon de la dominer, de la contrôler, de la créer, de la refaire, de la diriger. Donc, si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à nommer ce que tu veux, ben, la chose ne pourra pas venir. Elle ne viendra pas à jour. Il faut que tu arrives à nommer. Dès que tu arrives à dire oui, c'est telle chose que je veux, et que c'est vraiment comme ça, alors tu pourras donc réaliser la chose. Hier, je connais le pasteur Michel, il me demandait qu'est-ce que je veux même dans les études, qu'est-ce que je veux. Et je lui racontais effectivement ce que je veux. Et il a dit, quelle est la finalité? À quoi je veux aboutir finalement? Je lui ai dit, ben, c'est une question très importante que tu poses là. Parce que c'est ça, on n'arrive pas souvent à dire qu'est-ce que nous voulons. À quoi nous voulons aboutir? C'est ça. Mais Ruth savait ce qu'elle voulait. C'est très important. En tout cas, si nous ne savons pas ce que nous voulons, ce sera difficile pour nous de pouvoir réussir. Et il y a une chose que vous devez voir dans la vie de Naomi et de son mari, comme dans la vie de Ruth, il y a eu un problème. C'est qu'on appelle la nécessité. Il y a eu un problème. Il y a eu quelque chose qui s'est... Il y a un problème qui s'est posé. Une nécessité qui s'est posée. Et vous savez que la nécessité nous permet soit de réussir, ou la nécessité nous permet soit de rétrograder, de tomber plus bas. Si vous demandez à ceux qui sont en prison, les gens qui ont volé, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu as pu faire cela? Ou bien ceux qui ont tué des gens, pourquoi tu as pu faire cela? Ils vont dire non, c'était obligatoire, c'était nécessaire que je le fasse. C'est une obligation. Il fallait que je fasse comme ça, parce que c'était comme ça. Mais ils n'ont pas compris. Mais il y a d'autres personnes également, ceux qui ont réussi, qui sont devenus des hommes d'affaires, hein, des grandes personnalités. Si vous les demandez, si vous révisez leur passé, vous allez voir qu'il y a eu des problèmes dans leur vie. Il y a eu des problèmes, une nécessité qui s'est posée. Mais ils ont transcendé cette nécessité-là en travaillant, en réfléchissant, en créant des choses. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec la famille de Naomi. Le problème s'est posé, la famine. Voilà, il y a un problème, il y a une nécessité qui est là. Et ils ont préféré alors changer de nation, aller dans une nation où Dieu avait dit qu'il ne peut pas rentrer dans l'Assemblée éternelle, etc. En tout cas, ils sont allés ailleurs. Ils ont voulu transposer le problème, mais ils n'ont pas réussi. Mais avec Ruth, le problème s'est posé, elle est restée ferme, elle est allée en Israël, et quand elle est arrivée en Israël, elle a commencé à travailler. Elle a dit à Naomi, toi tu es vieille, tu restes là, laisse-moi, je vais aller glaner dans les champs de l'homme auquel je vais trouver grâce. Et elle est partie. Elle a pu changer son environnement. Amen. Donc, il faut se dire, quand il y a une nécessité, un problème qui se pose, une nécessité qui est là, nous avons devant nous une occasion, soit de réussir, de monter plus haut, parce que la situation va nous pousser. Parce que si je dois traverser de l'eau, si c'est de l'eau de quelques centimètres, je vais sauter un peu. Mais si c'était de l'eau de au moins 2 mètres, ben je vais me rappeler qu'à l'école primaire, je pouvais sauter 5 mètres. Et je vais retourner en arrière et puis essayer de faire un grand bond. Comme je peux dire, ah, mais comme l'eau là est comme ça, bon, c'est pas la peine. Je vais retourner aller m'asseoir là-bas, même si je dois mourir, que je meurs. Vous savez, les lépreux étaient coincés dans la Bible. 4 lépreux étaient coincés, ils avaient des problèmes. Il y a la guerre, il y a la famine. Et les lépreux n'ont pas à manger. Ben, ils se sont dit, si nous restons ici, là où nous sommes là, ce qui est sûr, nous allons mourir. Parce qu'il n'y a pas à manger. Si nous allons dans les camps des Syriens, qui sont nos ennemis, qui sont venus combattre Israël. Peut-être que ils vont avoir pitié de nous, ils vont nous donner à manger, ou bien ils vont nous tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rester ici, et nous sommes en sécurité, mais la mort vient certainement. Aller dans le camp des Syriens, tenter en allant dans le camp des Syriens, peut-être là-bas ils peuvent avoir compassion de nous, ils ont décidé, non, nous allons partir. Qu'advienne ce que pourra, nous allons partir. Et ils sont allés dans le camp des Syriens. À leur grand étonnement, arrivé, tout le monde avait fui. Parce que Dieu a fait que leur pas était devenu comme des bruits de chars. Tout le monde a fui et ils avaient à manger en pareil. Et c'est les lépreux qui ont délivré Israël. Alléluia. Quand la nécessité, quand les problèmes se posent, nous avons la possibilité. Parce que la vie ne nous laisse pas sans solution. Hein. La vie nous donne toujours une solution. Nous pouvons transcender ou bien nous pouvons nous dire, oh, c'est pas la peine. Les lépreux pouvaient se dire, c'est pas la peine. Restons ici, mourons ici. Ils allaient mourir effectivement. C'est sûr. Alors, Ruth a compris donc vraiment et elle s'est levée, elle est partie. Dieu est formidable. Quand vous regardez ce que Dieu a fait, l'homme même, quand la science explique les choses, c'est très formidable. C'est des choses que nous avons apprises à l'école. Et je lisais un document qui me rappelait encore ces choses. Il dit, nous-mêmes qui sommes à l'existence là, chacun de nous là, c'est un exploit. Chacun de nous est un exploit. Ça fait un peu honte, mais c'est la vérité. Le spermatozoïde qui nous a fécondés et qui nous a mis au monde était au milieu de au moins près de 10 millions de spermatozoïdes. Vous savez ces choses-là. Voilà. Au moins 10 millions de spermatozoïdes. Et le Seigneur a permis que toi qui dois naître là, c'est pour toi là. Et tout le monde cherchait l'œuf hein, unique là. Tous les autres spermatozoïdes cherchaient à féconder. Et c'est pour toi qui a devancé. C'est toi qui as pu vaincre tous ces 10 millions là. Hein? C'est ton spermatozoïde qui a pu triompher, qui a pu évoluer et qui a été le plus rapide et qui a pu alors féconder cet œuf là pour que tu sois né aujourd'hui. Et tous les autres sont morts. Les autres qui n'ont pas pu féconder l'œuf sont morts. Et tu es là. Nous sommes déjà, en naissant même, déjà, en étant fécondés même, nous sommes des champions. Il a fallu une bataille pour qu'on puisse naître. Alléluia. L'homme est un champion. Amen. Il ne faut jamais se mettre en arrière. Avec Jésus, nous pouvons remporter la victoire. L'homme est un champion. Donc, alors, nous allons aller vers la fin en nous posant quelques questions. Nous pouvons nous poser la question, est-ce que le destin existe? Mon père, si vous, ça ne vous dit rien, mais en Afrique, on parle beaucoup de destin. Je ne parle pas de la prédestination, qui est une chose effectivement programmée par Dieu, etc., etc. Mais sur la terre ici, dans le monde matériel là, est-ce qu'un enfant de Dieu va dire, bon, moi, Dieu ne m'a pas destiné, il m'a destiné à souffrir? Il y a des gens qui pensent comme ça chez nous en Afrique. Hein? Bon, même surtout dans le monde musulman, les musulmans disent que si Dieu t'a destiné à devenir voleur, tu vas être voleur, toujours. S'il t'a destiné à être un mendiant, toi tu seras un mendiant, toujours. Tu ne peux rien changer dans ton sort. Eh bien là, c'est faux. Alléluia. C'est faux. C'est vrai qu'il y a la prédestination dont le pasteur a parlé, j'ai lu son livre, il a parlé de cela. Mais je ne crois pas qu'un enfant de Dieu converti comme ça, que Dieu veuille que moi je reste comme ça, pauvre, dans la mendicité, en train de demander, non. On peut changer son environnement, par sa foi. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous donner l'espoir. Il n'est pas venu pour nous montrer que, bon, voilà, toi tu es sans espoir, tu resteras comme ça, ben, tu vois, c'est au paradis que ça va s'améliorer, sinon ici, là, eh ben, tu resteras comme ça. Je ne pense pas. Non. Ruth a prouvé le contraire. Orpa est retournée, elle a disparu. Elle n'a pas voulu transcender, elle n'a pas voulu vaincre la difficulté. Elle a disparu, on n'entend plus parler d'elle. Mais Ruth, on en parlera jusqu'à ce que Jésus revienne. On peut changer les choses, on peut transformer les choses. C'est à nous de croire et de nous lever et d'agir. Et les choses vont changer. Et une autre question, c'est le lieu de la bénédiction. savez que chez nous, surtout en Afrique, les chrétiens font comme les Naomi, là. Vont d'église en église. Aujourd'hui, ils sont dans cette église. Après, ils disent non, ici, là, non, ça ne va pas. Il n'y a pas la bénédiction ici. Demain encore, ils sont dans une autre église. Et après quelques mois encore, après, ils sont dans une autre église. Ils se promènent partout pour. Ils pensent qu'il y a une église où, si tu vas là-bas, toute la bénédiction descend sur toi. Voilà. Ils n'ont rien compris. Où se trouve la bénédiction? La bénédiction, est-ce qu'il y a un lieu pour la bénédiction? C'est ce que les Naomi et les Mélèques ont pensé. Nous sommes en Israël, ça ne va pas. Oh, il y a la famine, tant. Allons à Moab. Ils sont allés à Moab, croyant que ça allait valoir mieux. Là-bas même, c'est pire, c'est la mort. Il y a au moins 3 personnes, et c'est les hommes qui sont en train de mourir, qui sont morts. Encore, ils apprennent qu'en Israël, c'est mieux. Pouf! Encore, ils courent, ils viennent encore en Israël. Et là-bas, si Ruth n'était pas là, Naomi ne pouvait rien faire. Elle a mouru misérablement. Vous voyez, la bénédiction, Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Même si tu es dans le désert, Jean-Baptiste précède dans le désert, les gens sont allés vers lui dans le désert. Ce qui est important, que l'homme soit en règle, comme disait l'enfant là. Je sais que si je reconstruis l'image de l'homme là, le monde sera reconstitué. Si tu es en règle avec Dieu, alors le reste là, ça peut aller. Bien sûr qu'il faut mettre sa foi en application. Sinon, il n'y a pas un lieu donné, en tout cas à ma connaissance, où Dieu dit, c'est ici que tu peux avoir la bénédiction. Si ce n'est pas en France, tu ne seras pas béni. Il y a un monsieur qui me racontait l'histoire de son oncle. Parce qu'en Afrique, là-bas, tout le monde pense que c'est en Europe ici, ou aux États-Unis, qu'il y a la, maintenant, il parle des États-Unis, qu'il y a la richesse. Mais lui, son oncle a été taximan pendant plus de 20 ans à New York. Il est rentré pauvre en Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu les moyens. Mais arrivé en Côte d'Ivoire, alors, il a recommencé les taxis là-bas. Et c'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'il a pu monter de grandes sociétés. Il est devenu très riche en Côte d'Ivoire. S'il était resté à New York, il serait toujours pauvre. La bénédiction n'a pas de lieu. C'est la foi et ta relation avec Dieu qui donne la bénédiction. C'est pas un endroit donné. Non. En Afrique, on peut être, ou ailleurs, on peut être, si c'est les moyens, on peut avoir autant de moyens qu'en Europe ou ailleurs. C'est sûr. La bénédiction n'a pas de lieu. Ça dépend du cœur. En nous voyant donc Ruth, le lieu que les Naomi avaient fui, parce qu'ils avaient fui Israël pour aller à Moab. Et Ruth fait le contraire. Ruth dit, moi je ne reste pas à Moab. Bien que Naomi ait dit, il faut rester, etc. Tes parents sont là, tes terres sont là, etc. Elle dit, non, moi je ne reste pas ici. Et donc, Ruth a quitté pour revenir. Elle a fait le contraire. Amen. Donc, il n'y a pas un lieu pour la bénédiction. Ça dépend donc de notre foi. Alors donc, ce matin, je vous encourage à restez ferme dans la foi. Je vous encourage à vous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cela que nous pouvons avoir la victoire. Nous avons vu donc l'exemple de Ruth, comment elle était totalement démunie, une veuve qui s'est attachée à Naomi. Naomi également était veuve, donc une veuve, jeune veuve, qui s'attache à une vieille veuve. Il n'y a pas d'espoir. Ruth aurait pu aller vers un mari, un jeune homme qui est bien. Maintenant, nous voyons qu'elle s'est attachée à une vieille femme parce que la vieille femme là va en Israël vers son Dieu. Elle va aller vers le Dieu de la vieille femme. Elle s'est attachée à Naomi. Et comme je le disais un jour, Naomi, en réalité, si c'est en Afrique déjà, on allait la tuer. Je l'aime aussi. Si tout le monde meurt autour de toi, toi tu es là, Naomi était là, et son mari est décédé, elle est là, elle n'a rien. Ensuite son premier fils est décédé, elle est toujours là. Ensuite le deuxième fils est décédé, elle est toujours là. Tout le monde meurt autour de toi, et puis toi tu es toujours là. On va dire, il y a soin, comme on dit à Moré, c'est une sorcière. C'est toi qui tues les gens là, et puis toi tu es toujours là. C'est comme ça, hein. On accueille les femmes, surtout dans les plateaux, moi aussi. Et on cherche les femmes. Il y a même un centre d'hébergement à Ouagadougou pour les femmes qu'on a cherché comme ça, qu'on a accusé inutilement. Alors donc, Cette femme-là, on pourrait dire qu'elle est sorcière. Ruth pourrait dire, mais je ne peux pas suivre une sorcière. Tout le monde meurt autour de toi et puis tu es toujours là. Ben, c'est toi qui les tues. Si c'est comme ça, moi, je ne peux pas te suivre. Mais Ruth l'a suivi sans... Ça dit que de façon désintéressée. Amen. Sans chercher un intérêt. Et c'est ça qui est important. Quand nous faisons une œuvre devant Dieu, à cause de Dieu, sans intérêt, comme je donnais l'exemple de Michel qui parle chez nous, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? À moins de lui donner peut-être un cabri ou bien une poule, qu'il ne peut pas d'ailleurs envoyer ici, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Il part pour faire l'œuvre de Dieu. Hein, de façon désintéressée. Ce que vous donnez pour l'Afrique là, c'est de façon désintéressée. Alléluia. C'est le Seigneur seul qui peut vous récompenser. Ruth aussi, c'est comme ça. Elle a suivi la vieille là de façon désintéressée. Tout en sachant que la vieille ne peut rien lui donner. Et la vieille même a dit, hein, moi, on n'a pas lu cette partie, qu'est-ce que moi je peux vous donner? Je ne peux plus avoir des enfants qui vont vous marier. Je suis vieille, retournez. Mais elle a dit, non, moi je suis avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Si nous faisons une œuvre de façon désintéressée, c'est Dieu seul qui peut nous récompenser à cause de notre foi. Et il ne manquera pas, parce que les mots aussi disent que Dieu n'a pas de crédit avec quelqu'un. Il n'a pas de crédit avec quelqu'un. Si tu donnes une dette à Dieu, il va te rembourser. Non, il n'y a pas de crédit avec quelqu'un. Si tu es fidèle, le Seigneur te rembourse. Alors, donc, voilà vraiment ce que j'avais à dire. Que le Seigneur nous aide à rester ferme dans la foi et à marcher... de victoire en victoire, au nom de Jésus. Amen.